Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà ensemble dans ces accueillants studios de FM+, pour traiter de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, donc, je fais écho à une actualité brûlante qui se situe plutôt de façon très très voyante en Iran, avec des morts par centaines et des nouvelles alarmantes qui nous viennent et qui nous inquiètent. Mais pour ne pas oublier que dans ce coin du monde, il y a d'autres pays qui souffrent et qui sont en difficulté, j'ai décidé de parler de l'Afghanistan et je reçois aujourd'hui Habib Haider, qui est un Afghan montpelliérain et de longue date, donc qui se vit complètement français, mais qui, connaissant très bien son pays et l'origine des difficultés d'il y a très longtemps, a accepté aujourd'hui de venir parler de ces difficultés-là. Il est à l'origine de la création de la Maison de l'Afghanistan aussi, qui existe et dont il parlera sûrement brièvement. Et donc, voilà, il est venu. Bonjour Habib.
Bonjour Claude.
Et merci de nous faire vraiment l'honneur de ta présence sage et très informée. Voilà, donc on est venu là, on est en train de parler de l'Afghanistan. Et est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu les choses, enfin nous expliquer un petit peu ce que vit l'Afghanistan depuis très 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 longtemps, puisqu'on a quand même tout suivi. Il y a eu quand même l'Union soviétique, il y a eu quand même les talibans, il y a eu voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu où en est la situation, ce qui nous a amené à cette situation d'aujourd'hui, parce que je te prends comme historien de l'histoire.
Tu veux que je résume un livre?
Oui.
En deux minutes, tout ça.
Non, mais je te sais capable. Hein, je te sais capable.
Mais je pense que l'Afghanistan, c'était une société archaïque et traditionnelle qui, malheureusement, rentrait dans la mondialisation de façon forcée et avec les outils de marché et de l'Occident. Il y a 50 ans, quand l'Afghanistan était un pays sous-développé, le pays était autosuffisant,
oui.
Mais on n'avait pas des routes asphaltées, ni des industries, ni des aéroports, mais les gens mangeaient à leur faim.
Oui, on va dire, excuse-moi, je fais une petite digression d'étrangère, justement. C'est un pays quand même où il y a énormément, très montagneux aussi.
C'est un pays
donc
extrêmement
rural,
rude.
Oui.
C'est un pays à 85% couvert par les montagnes et les déserts.
Mmh.
Mais avec une culture de paysans et de nomades qui faisait que l'entraide de ces deux peuplades pouvait manger à leur faim suffisamment de nourriture et d'anticiper les aléas de la nature selon les us et les coutumes de la tradition.
Oui, une sagesse de rurale, quoi, de
voilà.
La terre.
Le malheur a fait que, après la Deuxième Guerre mondiale, les agences de l'ONU et des agences internationales sont arrivées en Afghanistan pour aider le peuple afghan de sortir de non-développement et de devenir des sous-développés.
Oui, c'est-à-dire une référence après à notre monde à nous, occidental.
Et c'est là que les choses commencent à s'effriter.
Oui.
Parce qu'on a introduit des valeurs de l'Occident dans une société extrêmement traditionnelle et archaïque dans laquelle 99% de la population n'avait pas encore accès ni à l'eau potable, ni à l'école, ni aux histoires de la santé. Et c'est comme ça qu'on est allé, par le biais de l'aide internationale et le marché, a complètement artificialisé cette société-là. L'abîme était tel que dans les années 60-65, la famine montrait son visage. Et les gouvernants de l'époque, je dis gouvernants de l'époque, on parle beaucoup de l'État. L'Afghanistan n'a jamais eu d'État.
D'État. Ça, c'est très important voilà. aussi, hein, voilà. de se rendre compte qu'on passe d'une culture, on fait vraiment un saut dans l'inconnu. Pour
quand on a un pays, les gouvernants et les experts occidentaux, tout ça, ils ne se sont pas mis au service de peuple afghan. Ils se sont mis au service de l'État afghan, à qui ils ont prêté des briques en terre pour traverser une rivière torrentielle. Est-ce que
oui, l'image est pas mal.
Voilà.
L'image est pas mal.
Ce qui fait que on est allé d'artificialisation artificialisation à l'arrivée d'une république qui était elle-même une république artificielle parce que ça ne venait pas du peuple. Ça venait d'un gouvernement qui était affaibli et qui, pour rattraper les erreurs, ils ont dit on va changer le régime. Et ce régime-là, qui n'était pas soutenu par un État, mais de nouveau par un gouvernement et des acolytes qui faisaient tourner les rouages de l'économie dans le cadre de gouvernement, ils n'avaient pas d'information. Et ils sont allés à faire des réformes qui ne correspondaient pas. Et les gens se sont mis à révolter. Et pour les révoltes, les Occidentaux et les Américains ont profité de l'occasion pour donner une leçon qu'ils avaient prise en Vietnam, ou même en 68, en Afghanistan, en 1979. Et voilà, ce peuple-là, c'est comme ça qu'il est devenu un jouet des mensonges des experts et des occidentaux et des militaires et des diplomates pour arriver aujourd'hui à cette situation-là où les femmes sont dans les prisons sur environ 40 millions de peuples. Seulement 10% peuvent manger et le restant n'ont pas plus qu'une seule fois à manger par jour. Voilà. Et on a gaspillé le temps et des milliards de dollars. Mais le pire, c'est qu'on a gaspillé, on a trahi la confiance des Afghans. On a jeté au chien l'unité nationale de l'Afghanistan. Et c'est ça qui me révolte. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner aujourd'hui. Je sais bien que personne ne m'écoute, mais j'aimerais bien que quelques-uns qui m'écoutent puissent penser au peuple afghan. On est en train de subir les pires des misères de l'humanité. Bien sûr, les Iraniens méritent autant que nous, mais nous sommes entre les mains des gouvernants et pas des États, pour l'amour de Dieu. Et on ne vous demande pas de l'aide, on vous demande de la compréhension. Voilà.
Oui, donc c'est vrai que Habib est passionné et on sent qu'il souffre aussi dans son ressenti. Et ce qui est important justement, peut-être par rapport au début de notre entretien, ce qui est important, ce que j'ai retenu en tout cas de ce que tu nous as dit, c'est que quand même en fait, ce n'était pas un État, c'était un pays. Une région, enfin c'était qui vivait dans un climat très rude, dans un contexte rude, qui s'autosuffisait, qui mangeait, qui vivait, qui existait, et que finalement cette espèce de placardage qu'on a fait de cette civilisation occidentale a créé une incompréhension et a créé un sentiment de trahison, d'incompréhension de la part des gens. Et moi, peut-être que je me trompe en tant qu'occidental, peut-être que je me dis qu'effectivement, peut-être que ça explique aussi, et d'ailleurs c'est un peu le même raisonnement que pour l'Iran, pour les grandes régions rurales, c'est que c'est qu'à un moment, les gens comme ça qui sont dans les campagnes, etc., qui se méfient effectivement de quelque chose qui leur a été imposé de cette façon-là, ils sont peut-être revenus, ils ont peut-être envie de revenir à la tradition, et pourquoi pas à la religion aussi, ils s'appuient sur des choses comme ça.
Non, grâce, ne confondez pas la tradition et la religion, c'est deux choses différentes. La tradition, c'était des outils qui permettaient aux gens de survivre dans des conditions de survie et de subsistance. La religion est venue se greffer
dessus,
est devenue l'instrument de despotisme des gouvernants. Les Afghans ne courent pas après la religion. Mmh. Ils courent après la liberté, mmh. après le droit, mmh. après mmh. la justice sociale. Mmh. Et les gens vont là-bas pour nous construire des idées de l'islam et l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas la politique. Mmh. C'est devenu l'instrument aveugle des talibans pour terroriser la population. Et pour ça, j'aimerais bien que tu donnes la parole à mon compatriote.
Oui, alors parce qu'on vient d'être rejoint. Alors j'aimerais que tu le présentes parce que bon, nous avons hésité à le présenter parce qu'on ne savait pas, comme il vient d'arriver à Montpellier. Bon, en fait, il est afghan, donc bonjour, bonjour. Et est-ce que tu peux nous le présenter ou vous vous présentez directement? Allez-y.
Oui, bonjour. Je m'appelle Saïd Orfan Barzgar, je suis journaliste Afghanistan. Mm-hmm. Je suis arrivé en France il y a 11 mois. J'habitais ici au Montpellier, je travaillais au Afghanistan International Media.
D'accord, ok, donc depuis 11 mois, hein?
11 mois, oui.
11 mois, et c'est volontaire, c'est quoi? C'est un séjour que vous faites professionnel ou c'est un peu plus volontaire de venir un peu plus dans des pays comme le nôtre? C'est difficile à dire.
Non, c'est pas volontaire. Il D'accord. était chassé, il était pourchassé oui, c'est okay. par l'arrivée des talibans.
Non, mais c'est mieux de le dire. C'est mieux de dire. D'accord. Ok. Donc ici, j'en ai reçu certains d'autres pays aussi qui ont été aussi pas mal.
Il était bien tranquille sous le pseudo République de l'Afghanistan.
D'Afghanistan.
Il informait. Et il avait sa vie, sa petite vie, son activité. Et il y a 11 mois, je ne le connaissais même pas.
D'accord. Non.
Mais par hasard, je l'ai rencontré. Et il a une connaissance extrêmement profonde de la société traditionnelle et rurale de l'Afghanistan.
Rurale, ça c'est
dont
important.
Je vous parle tous
D'accord,
les jours.
Ok. Voilà. Alors moi je vais faire une petite digression, excusez-moi. Oui. C'est que d'abord, bonne arrivée chez nous. Finalement, je suis assez fière, je suis native de Montpellier, je suis partie mais revenue. Montpellier a toujours été une terre d'accueil. Voilà. Et ça a toujours accueilli, on a accueilli toujours les minorités chassées, etc., que ce soit religieuses ou pas. Et on a toujours accueilli les étrangers. Il y a énormément d'étrangers ici à Montpellier. Et c'est ce qui en fait sa particularité, sa richesse. Voilà. Donc, je suis ravie de savoir. Alors, c'est bien que tu aies un peu expliqué. Et que tu aies un peu expliqué, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué de parler de son problème quand on est à vif comme ça. Et je vous souhaite vraiment, et j'espère que vous serez très, très bien accueillis parmi nous. Pas comme Montpellier en France aussi. Et puis, voilà, je vous souhaite vraiment la bonne arrivée, une bonne inscription dans cette vie. Et dans ce pays qui, j'espère, sera votre terre d'accueil. Et voilà, et c'est vrai que je vais vous donner la parole, puisque donc Habib dit que vous connaissez bien la société traditionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de la société traditionnelle, des traditions, etc.
Ah oui, oui. Ok. Monsieur Habib, traduction, il m'a parlé. Okay.
Oui,
je vais essayer de traduire. Ma tarjuma.
Ok.
En plus, vous parlez le farsi, j'adore cette langue alors.
Ok, c'est bon.
Je vais vous dire que vous avez dit que vous avez Afghanistan.
بله. خب افغانستان سرزمینی است که برای فعلا برای شهرونداش برای یک جهنم میمانه. واقعا یک شرایطی بسیار سخت و دشوار را دارن مردم تجربه میکنن. شرایطی که هر روز میگذره برای مردم سختتر و سختتر میشود.
افغانستان est transformé en enfer pour la population afghane. Oui. Et plus le temps passe, plus la situation devient compliquée pour le peuple et que ça devient vraiment problématique pour l'ensemble de la population afghane.
مردم افغانستان با گذشت هر روز با محدودیت ها و با شرایط بسیار سخت و دشواری از سوی طالبا مواجه میشن. قانون های بسیار سختگیرانه ای برای زندگی مردم اینا وضع میکنن که همه برای مردم سختی ها و دشواری ها را آورده و در کنار از این فقر، گرسنگی، بدبختی، ناامنی همه از یا از مشکلاتی که امروز مردم با او دست پنجه نرم میکنن.
Tous les jours, à chaque jour, les talibans inventent des contraintes et des restrictions qui transforment la société en une société extrêmement archaïque et pauvre, et que les décisions qu'ils sont en train de prendre aveuglément, ça accentue la famine, l'exil, la pauvreté, la maladie, etc., etc.
جدیدترین اتفاقی که در افغانستان افتاده و قانونی که طالبا وضع کردن زیر نام اصولنامه جزایی محاکم افغانستان که این بسیار نشان میده که آینده افغانستان بسیار تاریک است. جامعه افغانستان را به 4 طبقه تقسیم بندی کرده: علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه فقیر جامعه.
La dernière décision des talibans qui est récente et que M. Barzgan est en train de nous décrire, il dit c'est une loi qu'ils ont décrétée qui va être absolument catastrophique pour la société afghane. C'est que ils ont, par décret de Mullah Hébatullah, ils sont en train de diviser la société afghane en 4 couches sociales pour pouvoir gouverner la société de cette manière-là.
در مورد از اینا مجازات و قانون در محاکم همچنان فرق میکنه. کسایی که اینا علما هستن از مجازات معاف هستن، کسایی که اشراف هستن اونا توصیه میشوند، کسایی که طبقه متوسط هستن اونا مجازات میشوند و کسایی که طبقه پایین جامعه هستن ضمن از اینکه مجازات میشن برای از اونا حدود شرعی هم اجرا میشه.
Alors, donc, cette division de société en 4, c'est-à-dire que donne des conditions favorables pour les ulamas, les religieux, et pour les gouvernants qui ne subissent pas les lois.
Qui sont au-dessus des lois.
Les libertés, tout ça. Et après, il y a les couches moyennes et puis les pauvres qui subissent tout. Et que cette situation-là fait que les gens qui sont dans la couche supérieure ne donnent pas des comptes. Et tous les moyens de l'Afghanistan, les richesses, toute la liberté est monopolisée par ces gens-là. Et la couche moyenne et le peuple doivent subir. Et les restrictions sont telles que maintenant, les gens sont à bout, ceux qui n'arrivent pas le chemin de l'exil. Et je t'assure que j'ajoute quelque chose à ce que Barzgar vient d'annoncer. Samedi dernier, à midi, j'avais eu un coup de fil d'un père, d'une fille de Kaboul, qui me disait, mais Haider, je ne viens pas te demander pour moi de l'aide, parce que je suis dans une prison. Mais ma fille de 21 ans, est en train de devenir folle, enfermée entre les 4 murs, parce que les talibans appliquent cette loi de régression et c'est de la ségrégation. Vous savez, c'est de la ségrégation. Donc, de grâce, il faut l'écouter.
بخش دیگر و مهمی قضیه ای است که در این قانون و این اصولنامه شان طالبا برای زنها قواعد سختر و دشوارتری ذکر کردن و در کنار از او تا اکنون بیش از 60 حکم ملای بطلا و مقامات طالبا برای محدودسازی زنان افغانستان صادر کردن که و این قانون اخیر حتی زنها را در خانه آرام نمیمانه.
La dernière loi qui est très récente de Mullah Hébatullah, est tellement sévère pour les femmes que les femmes ne peuvent même pas avoir une vie tranquille dans l'enceinte de leur propre maison.
Oui, c'est même... Voilà. Ils rentrent maintenant dans les maisons
dans
aussi.
La surveillance dans les maisons.
Tout à fait.
این قانون جدید برای شوهرها، برای مردای خانواده اجازه میده که با دست باز علیه زنایشان ظلم بکنن. با تاسف یک عده‌ای از جامعه افغانستان اطلاعات کمتری در مورد زنها دارن و یک عده دیگری هم که متاثر از افکار طالبان و از افکار این گروه حاکم هستن، اونا به شدت خشونت و جنایت علیه زنها دارن افزایش میدن.
C'est un nouvel décret ou de loi de Mullah Hébatullah donne l'autorisation aux maris et fils de ces femmes-là d'avoir toutes les libertés d'opprimer leurs femmes, leurs mères et leurs sœurs s'ils n'acceptent pas de se soumettre aux aux directives mm-hmm. et de la loi des talibans. Mm-hmm. Et ça, c'est très grave mm-hmm. parce que oui, la société afghane est très traditionnelle mm-hmm. et depuis ces 20 dernières années, les femmes à la maison pouvaient respirer un petit mm-hmm. peu. Mm-hmm. Maintenant, les femmes perdent tout à fait leur mm-hmm. statut social. Mm-hmm. Ils deviennent objets qu'on peut vendre, on peut violer, on peut exécuter pour un rien.
ما ناامنی رو در افغانستان در بخش‌های مختلف داریم، ناامنی غذایی، ناامنی دیگه از نظر امنیت، از نظر روانی، همه مردم و زنها شرایط بسیار زیاد دشواری دارن. فعلا افغانستان داره از یک هفته به این سو برفباری است، بخش زیادی از مردم به کمک رسانی نیاز دارن، واقعا فقر و بدبختی داره از حد بیشتر میشه و در همین چند روز گذشته دست کم 60 نفر کشته شدن و بیش از 100 جان باختن در نتیجه این برفا و بیش از 100 نفر دیگه هم زخمی شدن. شهرها بسته است، اطلاعات از وضعیت مردم ندارن و طالبان نمیتونن برای مردم کمک بکنن به دلایل مختلفی که فعلا در افغانستان وجود داره.
La liste des insécurités que je dois vous citer c'est long. L'insécurité alimentaire, physique, politique, etc. À tout ceci s'ajoutent maintenant les intempéries. Depuis quelques jours, Kaboul et l'Afghanistan est couvert de la neige. Mmh. Et le froid et la faim tuent des milliers de gens. Mmh. On n'a aucune information sur la situation sur le terrain. Mais les talibans n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de l'ensemble de la population. Mmh. Chaque jour, des centaines de gens meurent à cause de froid, des intempéries et de la neige. Et les routes sont coupées,
oui.
Les moyens de communication sont coupés et on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en Afghanistan. Mm-hmm. Mais les insécurités alimentaires et puis l'insécurité pour les femmes, mm-hmm. ce sont deux problèmes les plus cruciaux que je dois citer aujourd'hui pour vous.
Mm-hmm. طالبا همه داشته‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان و دستاوردهایی که در دو دهه جهان در افغانستان پرچمداری از او میگرفت خود او را همه را یک شبه از بین بردن و امروز طالبا هیچ افتخاری برای مردم افغانستان نیاوردن، هرچند اونا تبلیغ میکنن که امنیت در افغانستان آوردن، ولی واقعیتی است که امنیت هم در افغانستان وجود ندارد. طالبا خودشان عامل رهگیری بودند، طالبا خودشان عامل کشتار دست جمعی بودند و امروز اتفاق به گونه‌ای افتاده که اینا به صورت سیستماتیک دست به بازداشت نظامیان پیشین، کارمندان دولتی و فعالین میزنن. هر روز ما گزارش های متعددی از ولایت های مختلف افغانستان داریم که نظامی سابق کشته شده، اختطاف شده یا مردم. امی تازه ترین گزارشی که از هرات داریم دست کم 7 نفر در یک هفته کشته شدن. این نشان میده که آمار جرم و جنایت بسیار بلند است و بخش بزرگی از این هم بر روایت های و به گزارش های موثق از مناطق دست نیروهای خود طالبان هستند.
Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, le peuple afghan est privé de minimum d'avance sur le plan civilisationnel et de liberté. Du jour au lendemain, depuis que les talibans ont pris le pouvoir, le peuple afghan est privé de tout. Ici, on entend à droite et à gauche que les talibans ont amené la sécurité en Afghanistan. C'est faux, parce que c'est eux-mêmes qui étaient la cause de l'insécurité, et maintenant, ils disent que c'est la sécurité. Le grand problème que je dois vous citer, c'est que ils sont très sévères vis-à-vis de leurs opposants, et ils font des exécutions sommaires pour faire peur et terroriser la population et de contraindre le peuple de silence. Les talibans n'ont pas amené la sécurité ni la tranquillité en Afghanistan. Ce que vous entendez dans les journaux ou la presse, c'est faux. Mm-hmm. Pas plus loin que la semaine dernière, dans le province de Herat, ils ont exécuté une cinquantaine de personnes parce que les filles avaient manifesté la liberté et les hommes réclamaient un peu plus de justice sociale pour pouvoir manger. Mmh. Voilà.
D'accord. Donc, merci beaucoup. C'est assez bouleversant, je dois dire. On va faire une petite pause musicale. Hein, merci d'avoir choisi Beethoven. Peut-être ça va nous faire un peu de bien et on va revenir tous les trois ensemble. Voilà. Donc, Beethoven, je ne sais plus le morceau que tu as choisi. Enfin, un morceau de Beethoven.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, nous revoilà dans les studios de FM+, qui nous accueillent chaque semaine avec voilà, cette capacité que nous avons de pouvoir diffuser aussi des choses, des nouvelles et des commentaires aussi, aussi émouvants et aussi révoltants que ceux qu'on est en train d'écouter, puisque je suis en compagnie de deux Afghans, Abi Baider et Saïd Orphan Barzga. Qui sont alors Habib est un Montpelliérain de longue date maintenant. Évidemment, il était né en Afghanistan et Saïd vient d'arriver depuis 11 mois chez nous. Et journaliste, comme on peut s'en douter, quand on est journaliste et qu'on a trop envie de diffuser de la vérité, ben on peut pas trop rester dans son pays. Donc, je vous remercie d'être tous les deux là. Et de nous provoquer autant d'émotions et surtout de nous sortir des sentiers battus et de tout ce qu'on peut raconter, de ce que peut raconter l'international, la politique internationale et tout. Puisqu'apparemment, ce que vous venez de nous expliquer déjà précédemment, c'est que nous n'avons pas vraiment les bonnes nouvelles. Good news, non. C'est toujours faux. Donc, on redonne la parole à Saïd Orphan, d'accord ? Voilà, tu peux continuer à...
آنچه که در افغانستان میگذره و امروز اتفاقی میفته مردم افغانستان همیشه انتظار داشتن که جامعه جهانی و جامعه بین المللی نسبت به مردم افغانستان و وضعیتی که زنا دارن مردا دارن در مجموع جامعه افغانستان دارن واقع بینانه رفتار بکنه چیزی که کمتر دیده شده
le peuple afghan attendait que la communauté internationale soit un peu plus clairvoyant vis-à-vis du peuple afghan et surtout ses hommes, ses femmes. Avec tristesse, nous constatons qu'on est un peu oublié.
Voilà, alors ça me fait, quelque part, ça fait écho chez moi, puisque c'est vrai que je trouve que je suis quand même assez en colère de voir aussi peu d'implications, effectivement, de la politique internationale et des nations, surtout quand même si il y a de la désinformation, comme vous venez de nous l'expliquer, on se doute bien qu'il y a de la souffrance. Donc voilà quoi, hein, c'est pas.
ملت افغان رنج میبره و ما ایوازی که از ملت کپ بزنیم از دیگه چیزا کپ بزنیم
وقتی است که جامعه جهانی و ویژه جانب آمریکایی ها در همی 5 سال حاکمیت طالبا 13 میلیارد دلار پول دادن بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی با طالبا مراودات دارن و این خودی از این حتی اگر اونا اعلان نکرده باشن به رسمیت بشناسیم برای بقای طالبا برای تقویت طالبا اینا بسیار کمک کرده و داره کمک میکنن
Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, les États-Unis a aidé les talibans plus de 13 milliards de dollars. Et les instances européennes et occidentales, s'ils ne sont pas directement en contact et qu'ils n'ont pas des ambassades en Afghanistan, ils sont en contact avec les talibans, ils les aident indirectement. Et ça, c'est très nuisible parce que...
C'est révoltant même, révoltant.
Voilà. Et ça va consolider leur base, même si ici, ils disent qu'on ne les aide pas et qu'il n'y a pas d'alternative en Afghanistan.
طالبا فعلا در افغانستان دارن با همی پولایی که از خارجی ها میگیرن و با بخش دیگری از پولایی را که خودشان با چور چپاول معادن با قاچاق مواد مخدر به دست میارن تربیه یک گروه و گروه های مختلفی است فرا منطقه‌ای فرا افغانستانی که میتونه به زودی یا دیر دامنگیری تمام جهان شود و به یک مصیبت بسیار کلان تبدیل شود
Les Occidentaux ne sont pas conscients que l'aide que les talibans reçoivent et la manière dont ils sont en train de dévaster les mines d'Afghanistan et les autres revenus qu'ils accaparent sur le dos de la population leur donnent des moyens de créer des écoles et élever toute une couche de la population dans l'esprit dans leur propre esprit et qui attire les sonnettes d'alarme en disant que si on continue de ne pas arrêter cette manière de l'éducation des talibans, ça peut devenir un problème très grave pour la région et pour l'humanité tout entière.
دست کم 20,000 مدرسه به اعتراف خودی که طالبان میکنند در سر تا سر افغانستان ساختند و این مدارس داره افزایش میابه شما را آمارش و اینا کودک ها و جوان ها همه از اینا را جذب کردن و در اونجا این مدارس به نام مدارس جهادی و دینی است که فقط آموزش های افراطی، آموزش های جنگی و آموزش های تروریستی به کودک ها فرامیده
و دیر دی طالبان او مهم ایزان کریه 20,000 مدرسه dans lesquelles ils n'enseignent que le terrorisme et le djihadisme. Voilà.
D'accord, c'est quand même vraiment très inquiétant, comme tu disais, hein. une grave menace. Quoi.
Mais c'est pour ça que je l'ai invité, pour qu'il vous dise des choses comme
oui.
moi.
Oui, oui.
Je ne dispose pas.
و بحث دیگر که است طالبا کاری که دیگر کردن در 5 سال گذشته تمام مکاتبی که افغانستان و در نتیجه حمایت های جهانی و به دست آمده بود همگی از وار از بین بردن فعلا حتی مردم نمیتونن نمیخواهن کودکاشون بخشی از مردم روان بکنن به خاطر از اینکه دیگه مکتب آینده کاری نداره ضمانت نداره شما ببینید قانون جدید که طالبا کردن حتی کسی که ملا میشه کسی که از مدرسه فارغ میشه و آدم از پیگرد جزایی معاف است این مسئله باعث شده که مکاتب هر روز خالی شوند در حال فرار
le seule chose qu'on avait gagné pendant les 20 dernières années c'était que les écoles étaient formées et que la jeunesse afghane allait dans les écoles dans l'espoir d'avoir un métier et d'avoir un gagne-pain. Malheureusement, depuis que les talibans ont pris le pouvoir, ils ont fermé la plupart des écoles. Et d'un autre côté, les madrassas dans lesquelles les enfants sont éduqués, ce sont des madrassas qui, indirectement, quand ils sont sortis de cette école-là, vont trouver un boulot parce que les talibans vous leur assurent un avenir. Mais les autres qui ne fréquentent pas et qui ne veulent pas fréquenter ces écoles des talibans, ils vont être complètement condamnés au silence et de désespoir. Donc l'avenir de ces gens-là est très sombre. Irfan voulait attirer votre information, votre attention sur la manière ambiguë dans les Occidentaux au nom de l'aide humanitaire et d'urgence, vont aider les talibans. Mais les talibans l'utilisent, cette aide-là, à leur propre fin, pour créer, dans les jours à venir, un fléau pour l'humanité tout entière.
Tout à fait. Alors, malheureusement, on va être obligé de s'arrêter, mais je pense que peut-être ce sera sûrement important qu'on se revoie. Je voudrais vous donner la parole de la fin, peut-être d'abord à Saïd Orfan. Donc, voilà la parole de la fin. Et merci beaucoup. Voilà.
Merci.
Donc, la parole.
خب, از مردم افغانستان که روزمره با مردم افغانستان پیام دارم ارتباط دارم پیام مردم افغانستان می است که انتظاری که مردم افغانستان به ویژه زنان دارن جامعه جهانی سازمان ها کشورها نسبت به آنچه که برای افغانستان و برای زنان افغانستان میگن فراتر از اعلامیه‌های رسانه‌ای فراتر از بحث‌های سیاسی باید عملی واقعی بکنن و به مردم افغانستان توجه داشته باشن و الا اگر بی توجهی به این میتونه خطر بسیار جدی برای تمام
Ma demande, pour conclure, c'est que il faut quand même écouter les femmes afghanes, les européennes et les français surtout, qui a des relations très amicales avec l'Afghanistan. Il faut qu'ils pensent au-delà de la politiquement correcte pour penser au peuple afghan. Sinon, le désespoir fait que les Afghans ne peuvent pas se révolter. Vous savez, ce sont des gens, quand on a faim, quand on est sous des contraintes extrêmement bizarres, on ne peut pas se... Et les maris ne veulent pas laisser ces femmes-là. Les Afghans ont faim, les Afghans ont soif, les Afghans ont froid. Il faut penser à eux. Moi, j'ajoute deux mots.
Oui.
Saïd Irfan, Bazazgar et moi-même, nous nous sommes exprimés en notre propre nom. Nous ne représentons pas aucune institution politique. Voilà, Il faut que les choses soient claires.
Vous avez parlé d'expérience avec votre cœur et avec votre vécu. Et ça, je vous en remercie tous les deux. Merci beaucoup, Saïd Erfan Barzgar, je te souhaite un bon avenir ici chez nous. Hein, et je suis très très ému de vous avoir reçu et très fier d'avoir eu la chance de vous écouter tous les deux.
Merci.
Bon, Habib, on se connaît de longue date. Donc j'espère que nos auditeurs auront bien écouté ça. Et je vais essayer de diffuser même un petit peu plus loin que chez nous. Je remercie FM Plus d'être toujours à l'écoute de toutes ces causes-là, de me permettre chaque fois chaque semaine de recevoir des gens comme vous. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment particulièrement poignant. Et juste après l'Iran, j'avoue que ça fait un peu beaucoup trop, quoi, dans ce coin du globe. Il faut que vraiment les gens se réveillent, quoi. Merci beaucoup à tous. À la semaine prochaine.
Merci.
Et merci à FM+. Et merci à tous les deux.
Merci.